Athéo, parti à la floraison du Muguet, fin avril 2019. Puzzle sonore, composé de textes issus du jeu d'écriture collectif, Le Cadavre exquis, de chansons et d'extraits de livres. Puzzle amical, initié par les pioches, avec des pièces rapportées de colloques, meunières, amis divers. Puzzle de sentiments contradictoires, de culpabilité et d'explications, de haine et d'amour, de solitude et de solidarité. Puzzle de tristesse et de force.
La mer fait aux marins des rêves que les retours à terre assassinent.
Sometimes I wish people would wake up and smell the roses. Somebody once said, those who feel it, know it. Somehow in this new world order, something old is lost. But at what cost? At what cost? I wish people would wake up and smell the roses. Somebody once said, those who feel it, they know it. Those who feel it, they know it. Somehow in this new world order, something is lost. But at what cost? At what cost? The people, they don't know. They don't know who they are. They don't know who they are, and I don't understand it.
Ça commence comme un film. Fondu au noir, Val-de-Marnistan, 2038. Très tôt le matin. Le vent qui souffle est différent de celui de la veille. C'est un vent révolutionnaire. Ce n'est pas évident de se tenir debout avec un vent pareil. Souvent, on s'énerve, on trébuche, on comprend rien. Mais si on le laisse souffler sur nous, ce vent, il accompagne nos gestes, on marche mieux et plus vite. D'un coup, on se sent presque bourré. On titube, ok. Mais content de ne rien comprendre. Drôle, drôle, drôle de vent. Qui sent la pluie, les fruits mûrs, les animaux de la ferme, l'utopie qui s'éloigne, la joie et la tristesse collées. Parfois, les livres du Comité Invisible ou de Günther Anders. Souvent les blagues, la provocation, l'intimité bizarre. La mauvaise foi qui fait réfléchir, l'adolescence qui ne finit jamais, le drame. Le reste du film est plus difficile à imaginer. C'est une histoire sans maladie qui épuise et qui empêche d'agir. Quelque chose qui continue au contraire, qui dure. On inventerait des trucs entre copains, on rigolerait bien, dos au vent, léger, avec le petit Théo dans le champ. Et c'est un futur qui me plaît mieux. Difficile d'évoquer ce futur, alors que tout pense à croire qu'il n'adviendra pas.
Que le ciel s'est déjà trop assombri pour ne laisser place qu'à notre présent. En pire, avec ton absence, le manque de toi en plus. Mais les lendemains auxquels tu rêvais, ton Val-de-Marnistan, ce pour quoi tu te battais, ta foi en nous, tes amis, et notre force commune, quoique souvent désorganisée, ça m'oblige à ne pas renoncer à ce futur. Théo, mon ami révolutionnaire,
tu étais contagieux. Et tu prenais peu de précautions pour ne pas contaminer ceux qui t'entourent. Tu aurais dû rester une année de plus. Tu aurais pris tellement de plaisir à dépenser ton chômage dans les amendes anti-confinement. Tu aurais imprimé de fausses attestations. ZAD du Val-de-Marnistan pour adresse et sorti pour bien casser les couilles aux flics comme motif. On t'en aurait peut-être même voulu. Et qu'est-ce que t'aurais été content de nous faire chier. Tu savais nous remuer et tu l'as fait jusqu'au bout. Tu as choisi le printemps pour t'en aller. Même les saisons, tu les emmerdes. On dit toujours que l'hiver, c'est dur et froid, c'est triste et long. Et puis vient le printemps, le soleil frais, la rosée sur les fleurs et les amoureux qui roucoulent. T'as bien choisi ton moment pour nous montrer qu'on comprend pas grand-chose. Que malgré nous, tous tes amis qui t'entourent, t'étais tout seul. J'aurais voulu être là, dans ta tête, avec toi. On aurait pris une poire, on aurait regardé tout ce qui défile dans cette belle boîte crânienne, bien cabossée. On aurait sûrement vu passer des tas de souvenirs et de projets fous. On aurait rigolé de ton camion cuisine, de ton plan huître ou de quand t'avais voulu devenir sorcier. On se serait dit que c'était dingue, que c'était vivant, et surtout que c'était pas grave, ça faisait partie de toi et qu'on t'aimait comme ça. Et que même quand t'y croyais plus, que tu te trouvais fou, on t'aimait encore plus. Parce que tes idées, elles étaient belles. Elles nous faisaient brûler. On aimait bien se réchauffer autour de tes feux, s'y brûler un peu, y jeter un peu d'huile ou un peu d'eau, puis les regarder s'éteindre lentement. C'était bien. Puis quand il n'y avait plus rien, on se parlait vraiment. On pouvait tout remettre en question, trop même. Alors on t'aidait à y voir clair, à reprendre tes repères, à reprendre confiance. Tu étais doux, tendre. Ça aussi c'était toi, et je t'aime tellement dans tous tes états. T'es vraiment une belle raclure, nous obliger à te dire tout ça dans un cadavre exquis. Faire penser à tout le monde que c'est de sa faute, qu'on n'a pas fait ce qu'il faut. Si tu voulais nous montrer qu'on est des merdes en organisation collective, c'est réussi. C'est peut-être pas ce que tu voulais dire, peut-être que tu voulais rien dire du tout. Et que tu ne voyais juste plus rien que du noir, plus rien devant toi. Mais comment tu veux qu'on s'en veuille pas ? J'imagine que ta douleur était trop grande, et je te comprends. Je ne sais pas du tout où tu es maintenant, ou si tu vas trouver un moyen de nous répondre. Ça me ferait plaisir d'en discuter avec toi, donc si tu trouves un moyen, fonce. Et si là où tu es, il n'y a rien, tant mieux. C'est sûrement ce que tu cherchais. Après tout, ça me ferait chier que tu te retrouves avec tous les gens qui sont morts. Tu serais pas tranquille, parce que la plupart sont vieux et sûrement cons, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Je t'aime, mon pote. C'est avec toi que j'ai appris à le dire avec autant de facilité. Aujourd'hui, je suis fière de ne pas en avoir honte, ni peur.
3, 4.
T'es où ? Vis simplement et n'aie pas peur des lois. T'es où ? Vis simplement et n'aie pas peur de toi. Laissez tomber les âmes qui courent, laissez tomber les âmes, je cours. Laissez tomber les âmes vautour, laissez tomber les âmes tout court. Laissez tomber les âmes qui courent, laissez tomber les âmes, je cours. Laissez tomber les âmes vautour, laissez tomber les âmes tout court. Si je tourne en rond, ça vient tout pareil. Je casse pas ma tête pour me niquer les oreilles. Trottoir tout droit, à gauche deux fois. La vie, je mens pas, je la fais 5000 fois. T'es où ?
On est en voiture avec Agathe et Zoé. Agathe, elle sait pas conduire, ça fait un peu peur. Regarde, je suis dehors. Non, ça va. Tu veux dire un truc, Agathe?
Je t'emmerde.
Agathe, elle t'emmerde. Et Zoé? Non. Zoé, elle dit juste. Elle dit, ben non, elle dit rien.
Ben, c'est pas si elle dit non, je t'emmerde pas.
Je pense, voilà. C'est vrai qu'on sait pas. Donc, on va écouter tout ça.
Comment j'ai rencontré Théo? J'ai rencontré Théo. Une nuit de tempête, de pluie, de rage en septembre. J'ai rencontré Théo la première fois que je suis arrivée à Ivry avec mon grand sac à dos, avec l'intention d'y m'installer pour quelques temps. Et j'ai rencontré Théo comme on rencontre une tornade qui descend des escaliers mal construites. Un bois qui font un énorme boucan quand quelqu'un les descend avec beaucoup de décision et d'élan, on va dire, comme il faisait souvent Théo. Et j'ai rencontré Théo en train de préparer sa soutenance de mémoire pour le lendemain. J'ai rencontré Théo après, au fur et à mesure des grappas qu'on buvait à n'importe quelle heure de la nuit. J'ai rencontré Théo dans des voyages en panda, dans des longues discussions qui pouvaient durer toute la nuit avec Portico Quartet qui sonnait en guise de fond. J'ai rencontré Théo en regardant la mer. Je regardais Théo en me prenant la tête avec lui, plein de fois.
Moi, Théo, je l'ai rencontré à la fac, à l'INP, en urbanisme. Je me souviens que je le trouvais super intéressant et que je sentais qu'on avait une accroche quelque part, politique, je pense d'abord. Mais je me trouvais vraiment con. Enfin, je trouvais qu'il était super pas sympa, vraiment pas sympa quoi, avec moi. Qui cherchait toujours à rentrer en conflit avec les gens en général, avec moi en particulier. Et du coup, je l'avais dit un jour. J'avais dit, écoute mec, si tu m'aimes pas, fais un effort parce que là, t'es juste insupportable en fait. Tu me pourris la vie. Et en fait, ça l'avait tellement touché que je lui dise ça. Il était vraiment désolé. Il m'a souri. Il m'a dit, ah mais non, mais pas du tout, je te kiffe grave mec, j'ai pas du tout envie de te donner cette impression. Et là on est devenus amis.
Je t'aime
mon pote.
C'est avec toi que j'ai appris à le dire.
C'est avec toi que j'ai appris à le dire avec autant de facilité. Aujourd'hui je suis fier de ne pas en avoir honte.
Aujourd'hui je suis fier de ne pas en avoir honte, ni peur. Oh, comme je suis heureuse
de savoir que tu es aimée.
En même temps triste que cela n'ait pu te permettre de souhaiter rester parmi nous. Je t'aime aussi, et en même temps, très égoïstement, je te déteste. Mais tu le sais, le suicide et moi avons déjà une histoire, et j'aurais aimé que ça s'en arrête là. Voilà plus d'un an que tu es parti, et pour autant, je pense presque quotidiennement à toi, avec cette petite culpabilité de n'avoir pu te soutenir, et cette nostalgie de ne pouvoir avoir ces discussions qui me manquent tant. J'aurais encore tellement à te raconter, besoin de ton avis. Je savais que j'allais devenir mère. J'aurais aimé te présenter mon fils et te raconter ma nouvelle vie avec lui. Je ne sais pas si tu as été conscient de la richesse humaine que tu avais en toi. J'ai beaucoup appris en observant ta capacité à entrer en relation avec l'autre et à t'adapter à lui, tout en sachant maintenir ta posture et ton point de vue. En y réfléchissant, ce qui a fait que notre relation est passée de professionnelle à amicale, c'est ton authenticité. Tu es quelqu'un de vrai, sincère et bienveillant. Tu as touché et marqué tellement d'autres personnes qui viennent de tellement d'horizons différents. Sache que tu es dans toutes les discussions que j'ai encore avec Fabrice, Hervé, Valou et Charlène. Ton départ nous a, à tous, créé un manque. J'avoue ne pas être très à l'aise avec cet exercice de cadavre exquis proposé par les pioches, mais cela me semblait important de participer pour t'envoyer ce dernier mot. C'est pourquoi je finirai là-dessus. La ferme. Plusieurs fois, nous en avons parlé et nous avions tous les deux ce sentiment amer que nous n'avions pu aller au bout de ce projet pour des raisons que nous avons beaucoup ressassées. Pour autant, c'est un lieu qui nous a permis de grandir aussi et de nous épanouir à certains moments. Je sais combien les valeurs que nous portions te tenaient à cœur et c'est ce qui t'a animé sur ce site et même après. Grâce à la ferme, nous sommes devenus amis. Tu étais un pilier sur lequel je me suis appuyé. Tu m'as permis de développer ma vision du monde. Je trouvais souvent que tu étais extrémiste dans ta manière de penser le système dans lequel nous vivons. Et pourtant, tu m'as forcé à développer mon sens critique et tu me poussais à argumenter ma position comme peu de personnes. Tu savais me provoquer et cela m'énervait. Mais je savais pertinemment ce que tu cherchais et je souhaite aujourd'hui te dire merci de m'avoir bousculé afin que je puisse m'affirmer.
Pour commencer, c'est le bordel et on n'y arrive jamais et il faut l'accepter. Par contre, on peut tendre un maximum à ce qu'on pourrait appeler, je sais pas, une démocratie du quotidien. Il y a un truc important qu'on n'a pas dit avant, c'est aussi le fait qu'on soit dans... Le guide du projet, c'est de respecter le temps des habitants. Donc, dans un sens de pas habiter, loger, mais habiter, transformer l'espace et le temps. Et vu que le guide, même si on n'y arrive pas à 100%, nous les professionnels, on évite les effets d'inertie et d'institutionnalisation. C'est pour ça que c'est un projet qui n'est pas de plus en plus coûteux, mais qui est de moins en moins coûteux pour la collectivité, notamment en acceptant qu'il y ait des projets qui meurent. S'il y a des habitants qui ne portent plus les projets, il n'y a pas de salariés qui sont payés pour que ces projets continuent. Donc, le projet, pendant un espace, pendant 2, 3, 4 ans, il meurt petit à petit. Soit il est repris par d'autres, soit il y a quelque chose d'autre à sa place. Mais il y a vraiment le cycle de la vie et donc la mort dans le cycle de la vie au sein de la ferme. D'ailleurs, ça fait 20 ans, c'est pas facile à vivre parce qu'il y a aussi beaucoup de meunières et meuniers qui meurent, en fait, parce qu'il y a aussi pas mal de personnes âgées, un ou deux. Et ça fait partie aussi de notre cycle et sur un temps professionnel, d'aller à des obsèques. Enfin, je sais pas, c'est des choses assez, assez importantes. Et oui, le bureau et le CA sont des instances de validation, surtout si c'est... Normalement, il n'y en a pas besoin. S'il y a un problème, on va voir le bureau et le CA, en fait. Et après, du coup, il y a un équilibre à trouver pour les salariés, notamment, parce que nous, on est là tout le temps. Donc, par principe de présence, même si notre rôle, ce n'est pas de le faire, on décide de beaucoup de choses et on porte les aspects plus lourds et plus chiants de financement administratif pour que le temps économique, politique... bureaucratique pèse le moins possible sur les bénévoles qui vont venir faire leurs activités.
Tu savais me provoquer
et cela m'énervait. Mais je savais pertinemment ce que tu cherchais et je souhaite aujourd'hui te dire merci de m'avoir bousculé afin que je puisse m'affirmer. Je souhaite aujourd'hui te dire merci de nous avoir bousculés. C'est certain, tu sais provoquer. Et cela me perturbait un peu. Je me rappelle, tu disais, tu gueulais. Mais quel pacotille, quelle mascarade ce Thierry Paco. Toi, tu travaillais sur un banc, et lui, il n'y comprenait rien de rien. De mon côté, je me disais, il va avoir une sale note. Tu te foutais vraiment en l'air ton avenir d'urbaniste, enfin. Je comprenais pas, bien à l'abri dans ma jolie bulle scolaire. Je pensais à ma carrière, à mon avenir. Il fallait faire des choix judicieux. Bien se placer, investir dans des plans rentables. L'objectif est simple, une croissance à deux chiffres de mon statut social. D'ailleurs, je ne dois pas traîner. J'ai des trucs sur le feu. Et surtout, les autres m'attendent. Je dois rédiger ce texte, et vite. On m'a donné une heure pour le faire, on m'a donné des ordres, des impératifs. Il faut dire qu'on est des pros chez les pioches. Pas des petits rigolos. On est tous des chefs de projet. Oui, des chefs. Mais quand j'y repense, paradoxalement, Théo... Je crois que tu as largement contribué à faire de nous ces bons professionnels, avec ton histoire de ferme démunie. L'IUP peut aller se rhabiller. On a eu prof rhabillé. Bon, alors c'est sûr, ce fut difficile d'aboutir à nos premiers ouvrages collectifs. On n'est pas bête, mais on est un peu gland et éparpillé. Il faut un souffle pour que ce groupe se rassemble. Théo, pour moi, c'est ce souffle, un tourbillon, parfois même un cyclone, qui nous catalyse et nous pousse à créer quelque chose de chouette, tous ensemble. Ce mec était exaspérant, je le captais pas bien parfois, mais j'ai toujours trouvé qu'il avait cette force, il focalisait des trucs. Et puis à ses côtés, j'ai aussi fini par comprendre qu'il est possible de produire quelque chose juste pour soi, quelque chose qui n'est pas imposé, que le travail ne se résume pas à une commande, à un ordre. Je suis enfin sortie de l'école. Aujourd'hui, une fois encore, c'est lui qui rassemble la meute pour travailler. Pour écrire ce texte,
bricolé à 34 mains.
Mais aussi grâce à lui. Je me suis toujours demandé comment Théo pouvait être à ce point.
Et encore plus depuis sa disparition. Lui qui était la plupart du temps mystérieux et un peu à l'écart, bien loin du stéréotype du leader charismatique. Il a planté la graine. Je m'en rends compte maintenant, dans chacun de nous, individuellement. Il avait avec chacun une relation particulière, et celle qu'il avait avec moi, j'ai pas vraiment su la définir de son vivant. Peut-être parce qu'on était tous les deux des caméléons sociaux, faisant plein de trucs à la fois, qui n'avaient pas tellement de cohérence globale, et puis tant mieux, un peu marginaux, un peu bizarres, un peu gitans, un peu tout fou. Mais on l'était tous, les pioches, cette bande d'allumés. En fait, je repense à lui régulièrement depuis l'an dernier. Je rêve que je lui téléphone, comme je faisais à l'époque. Il avait été à l'écoute pour moi. Au moment où je me sentais mal avec ce boulot qui n'allait pas, j'étais allé dans deux chez lui différents, à Ivry, à Vitry, je sais plus. On était allé voir un stand-up dans un café. Un vieux gueulait « Vitry !» 9-4-400 ! Comme un leitmotiv poétique et politique. C'était comme plongé dans les années 80. D'un coup, Ivry, c'était Harlem dans les années 70. Quand on savait au téléphone, c'était toujours hors contexte. Ça posait comme un... Le temps s'est arrêté, gros. Il n'y a plus de 2017, 14, 2012. On s'en fout, maintenant. Je dois vous avouer que j'ai pas fini de me poser des questions sur sa disparition et aussi sur son influence dans ma vie. Maintenant que j'ai fini de me culpabiliser pour n'avoir pas su revenir vers lui à temps, mais à temps pour qui? Pourquoi? Pour moi? J'ai fait pleurer Thibaut, Clément, Jérémy, en essayant d'échanger quelques mots à son propos l'an dernier. Et du coup, je sais plus vous parler de lui. Pourtant, je dois. Pourtant, j'ai envie. J'ai retrouvé mes dernières photos avec lui pendant un apéro à Malmousque. C'est l'endroit du monde où je me sens le plus chez moi. Autant de souvenirs sont marqués dans mon disque dur. C'était avec Laura et David de l'IUP, retrouvés à Marseille quelques temps auparavant, lui aussi un écorché de la vie. Théo avait nagé presque jusqu'à l'îlot Gabi. J'avais pas fait le lien, mais c'est dingue, je m'en rends compte maintenant. Ces jours-ci, je le revois dans ma tête, alors que les jours de printemps du Cara sont pluvieux et tristes. Je revois sa stature, son sourire espiègle, sa présence rassurante, sa manière de surpasser les choses en s'en foutant de tout. Un sacré exercice de lâcher prise pour moi, à chaque fois. Théo, notre héros. Théo et sa Fiat blanche. Je me rappelle, on s'était crachés tous les deux un soir de fête chez Manon Loisel. Je sais même plus comment on avait atterri là. Peut-être après le truc dans le trou de l'échangeur de Bagnolet. On était repartis le lendemain tous les deux dans des pensées qui m'avaient semblé similaires. Une attirance, une admiration et de gêne de classe. On était sans doute trop pouilleux pour elle. Bon, on va pas lui dire. Cette photo dans Le Parisien que j'ai jamais retrouvée, la banderole, non à la fusion. Et nous deux devant le siège de l'UNEF à Créteil. C'était l'époque Mathieu Thévenard. Le drap blanc récupéré au CHU. Ah, on était bien acharnés contre ce projet. Il m'en avait reparlé bien plus tard. Il m'avait fait lire son texte, qu'il entendait déclamer en amphi à l'occasion de je sais plus quoi. Tiens, j'ai retrouvé un mot que j'avais écrit pour lui, à chaud l'an dernier. Mon cher, mon grand Théo, ta présence, je n'oublierai jamais. Mon anti-modèle, mon camarade de jeunesse, mon éclat de rire et de liesse. Parce que tu as été là pour moi, je pouvais bien traverser la France pour toi. Même si j'aurais pu me bouger plus tôt, mon grand Théo. Ma première réaction fut le vide, puis les larmes et la honte, ou l'injustice, tout à la fois. Comme si tu ne méritais pas ça, même si tu l'as choisi, j'imagine. Puis tout est revenu en bloc, les soirées à Créteil, les vacances en Aveyron, toi avec ton chapeau au volant, en délire sur Mister Oiseau. J'en avais presque oublié qu'on était très proches à une époque, et que tu es toujours un de mes plus chers amis au monde. Pourquoi j'ai pas su être là pour toi quand il fallait, trouver les mots, quand il aurait fallu parler davantage, je ne sais pas. Camarade motivateur, un peu agressif, un peu plus idéaliste, toujours un peu plus.
Un soir dans une rue déserte, j'ai fauché une onde à 500. Un fils de bourgeois honnête, avec elle je fonce à 200. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Mon copain Pierrot s'est planté sur l'autoroute un jour de pluie. Parfois je l'entends rigoler, c'est sûr qu'il est au paradis. C'est enflé, c'est enflé. Et moi je continue mon cinoche au pied de ces buildings miteux. Je voudrais crever avant d'être moche, je voudrais finir comme toi mon vieux Gavroche. Un loubar périphérique, j'en ai plein les bottes de ce bled. La France est une banlieue merdique, comme dit mon copain Mohamed. Au flic, au flic. Le jour se lève sur ma banlieue, j'ai froid, c'est pourtant pas l'hiver. C'est drôle, le bitume est tout bleu.
Camarade motivateur, un peu agressif, un peu plus idéaliste, toujours un peu plus. Camarade. tout m'accompagne.
Camarade, tu m'accompagnes.
Parfois le temps dans l'instant, d'une situation où j'aurais imaginé ta colère ou ton rire, d'une silhouette aperçue dans la rue qui aurait pu être toi. Parfois le temps d'une lecture, d'un film, d'une palabre, d'un rêve, d'une figue fraîche dégustée dont le goût me rappelle celle des fruits cueillis dans l'arbre de la pierrefitte, d'un confinement, d'une exaspération. Ah, si Théo était là, autant vous dire que ça ne se passerait pas comme ça. Et si tu étais là, en fait, et si en fait, tu n'étais jamais parti et que tu ne partais jamais? Mais alors comment expliquer ce manque immense de toi, impossible à rassaisir? En reprenant aujourd'hui le texte lu il y a quelques années, et dont tu as imprimé quelques vers sur ton avant-bras, je crois ne t'avoir jamais aussi bien compris. Alors je m'en vais reprendre le cours de ma course à la consolation, avec une chaude certitude, celle du bonheur de partager les tiennes, le temps dans l'espace-temps que nous aurons choisi. Je suis née face à la mer, j'y retourne sans cesse, peut-être pour observer cette liberté que tu as trouvée autrement. Cette immensité, cette éternité, ce vent qui emporte et appelle vers d'autres horizons.
De ce que mes mots ont touché le cœur du monde. Que devient alors mon talent, si ce n'est une consolation pour le fait que je suis seul? Mais quelle épouvantable consolation qui me fait simplement ressentir ma solitude 5 fois plus fort. Je peux voir la liberté incarnée dans un animal qui traverse rapidement une clairière et entendre une voix qui chuchote « Vis simplement, prends ce que tu désires et n'aie pas peur des lois. » Mais qu'est-ce que ce bon conseil si ce n'est une consolation pour le fait que la liberté n'existe pas? Et quelle impitoyable consolation pour celui qui s'avise que l'être humain doit mettre des millions d'années à devenir un lézard. Pour finir, je peux m'apercevoir que cette terre est une fosse commune dans laquelle le roi Salomon, Ophélie et Himmler reposent côte à côte. Je peux en conclure que le bourreau et la malheureuse jouissent de la même mort que le sage et que la mort peut nous faire l'effet d'une consolation pour une vie manquée. Mais quelle atroce consolation pour celui qui voudrait voir dans la vie une consolation pour la mort.
Cette immensité, cette éternité, ce vent qui emporte et appelle vers d'autres horizons. Les pirates aux cannes de requins, le sommet à gravir, les fruits aux goûts inconnus, les savoirs et expériences à explorer. Un appel à l'aventure, à continuer à vivre pour l'amour de la découverte. En pleine campagne, à écraser le purin, ou face à l'océan à sentir les embruns, je pense à toi, à vous. J'y pense et j'ai le cœur serré. Je me dis que vous avez peut-être eu raison de ne plus y croire. Que tout va empirer indéniablement, que l'on va s'épuiser à lutter pour que rien ne change. À 30 ans, on est déjà fatigué. Qu'est-ce que ce sera à 60? Ah, j'aurais bien voulu te voir à 60 ans. Les cheveux tout gris, mais encore sexy. T'aurais fait des choses extraordinaires, c'est sûr. Maintenant, on les fait pour toi. On puise notre force dans la colère de ta disparition, pour la transformer en destin positif. On utilise nos blessures pour s'enraciner, droit dans nos bottes. Convaincu que t'es pas passé dans notre vie pour rien. T'as voulu t'effacer de nos mémoires, bah c'est loupé. On te garde bien au chaud. On ira danser avec les Bretons, les Corses et les Basques. On ira pagayer dans les marais, les rivières et les lacs, à chercher les plus gros poissons et tomber sur des vélibes enfouis. On sautera dans la boue pour toi. On chantera sous la pluie. On mangera des pâquerettes, des pains maillots et on boira du bon pif à ta mémoire. On construira des maisons et des cabanes dans les arbres. On refera le monde en paroles et en actes. Au petit matin et à la tombée du jour. On l'a fait avec toi, on le fait déjà, et on continuera à le faire. Pour toi et surtout pour nous. On fera des feux d'artifice façon alchimiste.
Façon alchimiste, on tirera depuis Montmartre.
Puis on ira mettre le feu à tous les comicos de la ville.
On sèmera désordre et chaos au hasard des rues. Pour l'occasion, je retremperai même mes lèvres dans un de tes mauvais breuvages préférés, poire
ou rhum arrangé. Et quand des petits blancs, trop propres sur eux, nous demanderont, apeurés...
Mais qu'est-ce que vous faites ?
Je leur lirai un passage de haine de Gunther Anders. Aucune chance qu'ils comprennent quoi que ce soit, ces cons-là. Nous non plus, on n'a rien compris d'ailleurs. Mais on l'a lu. À cause ou grâce à toi, on n'est jamais parvenu à trancher. Ce fut notre premier arpentage. Arpentage auquel tu n'as pas participé, parce que tu avais déjà lu le bazar. Et que je ne voulais pas fausser cette magnifique expérience, parce que j'ai des principes, comme tout bon connard. Rétrospectivement, je crois que c'est plus ou moins à cette période-là que j'ai eu l'impression de te voir perdre pied. Parfois, je me demande pourquoi je ne t'ai pas tendu la main. Au fond, j'étais peut-être effrayée à l'idée que tu puisses m'emporter dans ta chute. Ta tristesse, mon pote, c'était celle de ce bas monde. T'étais une éponge à cafard, mon frère. Et moi, j'avais pas le cœur à te délester de tout ça. Il me semble que si on s'aimait, si on tenait l'un à l'autre, c'est parce qu'on avait perçu le profond chagrin ancré en l'autre. Mais ça, on ne se l'est jamais dit, parce que c'était inutile. On en avait déjà assez de peine comme ça. De mon côté, je crois que j'ai appris à vivre avec, que j'ai fini par trouver un équilibre. Mais toi, mon pote, ta peine, elle me paraissait chaque jour un peu plus grande. Je ne sais plus comment tout ça s'est enchaîné, mais un beau jour, t'avais quitté ton taf, ton logement, tu dépensais du fric que t'avais pas, puis t'étais tout le temps sous alcool. La vérité, c'est que tu t'es devenu ingérable. J'apprenais même de te voir, d'apprendre que t'avais fait tel ou tel truc. Alors quand les toubibs ont mis un mot sur tout ça, au fond ça m'a rassuré. Ça m'a déculpabilisé de te trouver insupportable. Sombre connard que je suis. Puis, ça m'a permis de croire que tu guérirais. Mais guérir de quoi, au juste ? Je ne me suis même pas posé la question. À un moment, il semblait que t'allais mieux. Ça avait l'air dur, mais tu remontais la pente. T'avais des projets. Quand j'étais venue te voir à Orléans, pour ma part, j'étais au fond du seau. Et t'avais été au top. T'étais un ami en or, Théo. Comme tous les matins, à ce moment de ma vie, je pleurais en me réveillant. Et tu m'avais dit...
Ça finira. Ça finit forcément.
Oui. Et ça finit parfois tragiquement. Tu sais, ces jours-ci, j'écoute Il Galeone, le galion. Et le chant se termine par O Libertà, O Morte. La liberté ou la mort. Et cette dichotomie mort-liberté, en fait, j'ai réalisé qu'on la retrouve régulièrement, que ce soit dans des chants, des textes, des films. Toi et moi, mon Théo, on se foutait bien de la gueule des colibris. Et tu sais ce que t'étais, mon pote ? T'étais un petit oiseau. Un petit oiseau que ce monde avait foutu en cage. Un petit oiseau féru de liberté. Bien sûr, j'aimerais tellement que tu sois encore de ce monde. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que te guérir, c'était te faire accepter cette vie derrière un grillage doré. Il ne se passe pas une semaine sans que je me dise qu'il faut que je t'appelle. Peut-être les restes de ce coup de fil que nous avions prévu de nous donner et qui n'a jamais eu lieu. Mais ces temps-ci, vois-tu, nous sommes toutes et tous assignés à résidence, avec notre consentement et avec en toile de fond une dystopie hygiéniste. Et évidemment, j'aimerais t'entendre te lire. Les dystopies que tu imaginais, elles avaient un peu plus de gueule. Rendre le réel inacceptable. Thème de l'atelier d'écriture que tu avais proposé lors de notre premier week-end pioche. Je ne me rappelle plus tellement ce qu'il en était ressorti. J'imagine qu'on voyait ça avec un peu plus d'action. Peu importe. C'est finalement un bien bel hommage que te rend ce monde de merde pour cet anniversaire dont on se serait bien passé. Je ne sais pas si tu aimais Patrick Dewaere. Moi, je l'aime beaucoup. Et je me dis que ça devrait sûrement être ton cas. Depuis un an, j'ai regardé pas mal des films dans lesquels il joue. Et en écrivant ces mots, je me dis que ce n'est sûrement pas étranger à ton départ. Dans une lettre post-mortem, Depardieu écrivait à son pote Dewaere qui avait quitté ce monde quelques années plus tôt.
Il y avait un défaut de fabrication, un vice, quelque chose de fêlé en toi.
Toi, mon frère, il n'y avait tout compte fait rien de cassé en toi, seulement une dramatique clairvoyance.
Remiam finché la nave si schianti sui frangenti, altele rosso nere fra il sibilar dei venti, e sia pietosa coltrice l'onda spumosa e ria, ma sorga un dì sui martiri il sol dell'anarchia. Su schiave allarmi, allarmi, l'onda gorgoglie sale, tuoni, baleni e fulmini sul galeon fatale. Su schiave allarmi, allarmi, pugnam col braccio forte, giuriam, giuriam giustizia o libertà o morte. Giuriam, giuriam giustizia o libertà o morte.
Avant de commencer déjà, je me suis dit, putain Théo, tu me fais faire des trucs chelous quand même. C'est la première fois que je me retrouve à parler à haute voix à un mort. Dans la tête comme ça, ça peut arriver, mais là, à haute voix, face à un micro, tout seul. Mais ça me fait plaisir. Pour toi et pour les autres, ouais, pour contextualiser, je suis dans mon mobilhome. Il y a l'orage dehors qui tonne. Ça va peut-être s'entendre. Et je bois une petite poire. Ça m'aide et ça me rapproche de toi. La volonté de vivre est à l'avenir de l'humanité ce que la volonté de puissance fut à son passé inhumain. C'est d'elle que se créeront les situations où il sera permis à chacun de se créer. Nous nous sommes si longtemps défiés du possible que le vieux monde s'est renfermé sur nous comme une tombe. Il faut, pour en sortir, apprendre à défier l'impossible. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'immortalité pour se déterminer à vivre comme si l'on ne devait jamais mourir. Il appartient à chacun de découvrir en lui le point d'assemblage où le vivant, partout présent, se concentre. De la gravitation universelle où le vouloir vivre se manifeste, nous ne ressentons le plus souvent que le déséquilibre et la rupture. Le travail et la mécanisation du corps mettent hors de soi, décentrent le désir, et ce qui le relie au vivant s'enchevêtre et se resserre soudain dans les nœuds de l'angoisse, de la peur, de la culpabilité, de l'existence ordinaire. Nous sommes les enfants d'un monde dévasté, qui cessait à renaître dans un monde à créer. Apprendre à devenir humain, c'est la seule radicalité. Ce qui ne s'ouvre pas à la vie et se referme sur sa mort, les citadelles implosent ou explosent. Nous apprenons à nous souvenir de vivre comme les hommes de la survie se souvenaient à chaque instant d'avoir à mourir. Nous n'avons pas encore estimé à quel point nous avons été induits à désirer une fin au lieu de désirer sans fin. Howl Weingame. Nous ne désirons sans fin.
Je garde des souvenirs qu'on a partagés de toi, une citation imprimée et distribuée parmi d'autres. Être libre et lié, c'est une seule et même chose. Je ne sais pas trop d'où elle vient, du comité invisible sûrement. Peu importe, pour moi elle vient de toi. Ne prendre ni la révolte, ni la vie en général comme un acte individuel. Je t'ai admiré parce que tu savais ça, que tu le partageais de mille manières et surtout que tu l'incarnais. C'est peut-être ce qui t'a valu une part de ton mal-être, le sentiment que l'on n'arrivait pas à suivre cette exigence d'être ensemble et de lutter ensemble. Alors, je pourrais revenir sur toutes les raisons qui ont fait que nous sommes devenus amis. Mais aujourd'hui, c'est cette phrase que je veux porter et faire vivre. J'ai le sentiment profond que je resterai libre tant que cette flamme, ta flamme, m'animera. Cette flamme, ta flamme, m'animera et m'accompagnera pour toujours.
Je pense que ce que j'ai ressenti de plus fort au moment où on a appris sa mort, c'est l'envie d'être avec, tout, avec les autres. De les souvenir. Je pense que moi, je comprenais pas forcément trop ce qui s'est passé. Et puis je me suis un peu mis en mode... être là pour les autres. Peut-être pour éviter de me confronter à mes propres émotions. Je pense que le ressenti que j'ai eu par la suite, il y avait... quelque chose qui m'a été beaucoup inculqué par ma famille et puis que j'ai mis aussi dans mon texte qui est l'idée un peu de porter la flamme des choses positives que je vois en lui. Je crois que je me suis assez rapidement mis dans ce mode là aussi. C'est difficile d'évoquer la peine que j'ai ressentie à ce moment-là sans parler aussi de ce sentiment vague de culpabilité qu'on a eu un peu. Je pense que je le ressentais pas tant que ça, comme ça de mon côté, mais je l'avais un peu et je savais que d'autres l'avaient beaucoup. Et c'est aussi pour ça que j'ai essayé d'être un peu présent. À certains moments. En tout cas, c'est un ressenti qui a été très, très collectif pour moi. Je pense comme c'est un ressenti qui est un peu à l'image aussi de l'amitié qu'on a eue, qui était une amitié très collective aussi.
J'avais l'impression que cet homme était malade, que son esprit, ou bien son âme, ou encore son caractère, se trouvait atteint d'une sorte de mal contre lequel je me défendais avec l'instinct d'un homme sain. Avec le temps, cette prévention céda la place à une sympathie fondée sur une compassion immense pour cet être qui souffrait profondément, continuellement, et dont je pouvais constater l'isolement grandissant ainsi que l'agonie intérieure. Au cours de cette période, je compris progressivement que la maladie de ce malheureux ne provenait pas d'un quelconque défaut de sa nature, mais au contraire de l'immense richesse de ses dons et de ses forces qui n'avaient pu atteindre l'harmonie.
J'ai le sentiment profond que je resterai libre tant que cette flamme, ta flamme, m'animera. Cette flamme, ta flamme, m'animera et m'accompagnera pour toujours. Avec toi, ce fut une histoire de rire et de pleurs. Quoi de mieux pour résumer la vie? Car c'est une flamme qui brûlait dans les bons et dans les mauvais moments, mais qui ne te quitta jamais. Elle était là quand je suis arrivé avec mon sac à dos, un soir de pluie pour la première fois à l'aubergine. Tu t'es précipité par les escaliers d'un pas qu'avec le temps j'ai appris à reconnaître, et tu as parlé trop vite pour que je puisse comprendre tout. C'était la veille de soutenance de mémoire, je crois. Tu m'as offert des pâtes, trop cuites pour moi, au beurre, et t'es vite remonté dans ta chambre. Cette flamme était sûrement là quand tu rentrais épuisé de la ferme, mais avec l'envie de te confronter sur plein de choses. Tu mettais la musique à fond, et quand je te demandais d'enlever tes pompes pleines de boue, avec ton sourire de celui qui va faire une connerie, tu posais les pieds sur la table basse en disant « Ça te dérange pas ?» Parfois, cette flamme prenait beaucoup de place. Elle débordait, et alors tu pouvais pousser les limites. Démasqué pendant quelques heures avec ton style loufoque, le monde des politicards et des intellectuels que tu semblais rejeter et admirer. Rendre vrai pendant quelques coups de fil le Val-de-Marnistan. Te rendre à des conférences et prendre la parole devant des dizaines de personnes en te présentant comme philosophe. Écrire des pancartes pour les manifs dignes de l'humour de mauvais goût de Clément. Mais bon, je n'oublie pas la fois où je t'ai littéralement vu mettre la flamme, plutôt le feu quoi, aux culottes qu'un amour passager avait oublié et te brûler la main. D'autres fois, la flamme se faisait plus petite pour accueillir les paroles des autres. À n'importe quelle heure, un verre de tisane à la main. Grappa ou poire ce soir, Théo? Je me demande encore comment, jusqu'au bout, 15 jours avant de partir, tu as eu la place pour moi. Mes mots, mes peurs et mes angoisses que parfois on partageait. Et quand les paroles ne suffisaient plus, ta flamme devenait chaleur liquide et arrivait à tes mains, toujours chaude et lisse de ta peau douce comme t'aimais bien me faire remarquer. Et tu savais transmettre une sérénité qui ne te suffisait pas à toi. Tu me manques, amico mio. Parfois j'oublie que t'es plus là et je voudrais te croiser par hasard dans les rues d'Ivry ou entendre ton rire, qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir les blessures. Et alors je vais au jardin et je regarde ce petit arbre qui ne veut pas pousser droit.
Je me dis,
depuis que tu n'es plus là, il y a cet arbre-là qui me fait penser à toi.
Il s'est penché en arrière, comme quelqu'un qui est en fou rire, comme tout le fait, tu sais. Au fait, il n'y a pas que ce petit arbre du jardin. Il y a aussi le ruisseau, qui est pas loin d'ici. Ah, et aussi les fleurs blanches, le long du chemin qui amène à ce champ perdu. Je voudrais t'en parler de ce champ. Mais en fait, je pense que ça va te faire rire, parce que tu sais aussi. Tu y étais le trop froid, tout seul.
Il m'a fallu des années pour comprendre exactement ce que ça voulait dire. Mais à ce moment-là, déjà, je crois que j'avais saisi l'essentiel, parce que je me souviens encore de la force de l'étau qui m'a comprimé le cœur. J'ai regardé les hauts murs autour de moi, muets de peur, et j'ai pensé « C'est ici que je vais finir ». Alors, j'ai commencé à bâtir mes propres murs. Quitte à terminer ces jours dans une prison, autant choisir soi-même la nuance des briques et la qualité du ciment.
Tu y étais l'autre fois, tout seul. Tu m'avais écrit « Zoé, dans la vie, faut vivre au présent. Écrire des feuilles mauves, apprendre à danser sous la pluie, même si la conjugaison, c'est pas facile à appliquer. » Théo. J'essaye de vivre au présent. J'ai fait la danse de la pluie de Sénèque, et là, je suis en train d'écrire en mauve sur un Framapad. Ça compte? J'espère que t'as internet là où t'es. Et que tu pourras lire nos petits mots d'amour? Mais t'inquiète, j'ai compris le délire, tu pourras pas nous répondre. On se répondra les uns les autres, bien blottis dans des toiles que tu as contribué à tisser. Depuis que tu es parti, J'ai pas mal réfléchi à l'endroit où tu peux bien être, et là où finalement, je veux bien te mettre. Je t'imagine toujours là-haut. Je t'ai mis une petite carte postale sur la poutre au-dessus de mon bureau. C'est là où j'aime bien imaginer que tu sois de temps en temps. Merci d'ailleurs pour la dernière fois, quand j'étais paumé sur la question de la stratégie et que tu m'as conseillé de relire L'art de la guerre. Bref, j'espère que c'est calé là-haut, que t'as enfin pu expérimenter l'art de l'oisiveté et que t'as rencontré des gens sympas. J'imagine que tu t'es déjà fâché avec Marx. Ces derniers temps, ça doit être la fête chez vous, avec tous ces nouveaux d'un coup. Par contre, en bas, c'est horrible. On est enfermé chez nous, avec des dirigeants pourraves qui font passer toutes les mesures possibles de surveillance. Et nous, on a les bras plus que ballants. Et le pire, c'est qu'il y a un flip généralisé sur la transmission qui fait qu'on ne peut pas vraiment s'entraider comme on aurait pu le faire. Mais pour revenir à tes conseils de conjugaison, je galère bien à savoir à quel temps te conjuguer. Au futur, c'est nos futurs. Au présent, on m'a dit que c'était du déni. Au passé simple, ça serait se mentir, la simplicité, c'était pas vraiment ton fort. À l'imparfait ou au plus que parfait, c'est trop binaire. Au passé antérieur, tu deviens trop loin. J'opte souvent pour le passé composé. Tu es parti. Alors je prends le passé pour recomposer tes différentes facettes. Le Théo amoureux kitsch, avec le vase chinois et la tulipe violette, le bougeoir en bouteille de vin et les poèmes de Baudelaire, le Théo militant, avec la voix qui s'accélère quand il s'agit de parler du PC, de rapport de force ou du Val-de-Marnistan, le Théo tempétueux, qui passe de la brise légère à l'ouragan de force 10, le Théo rêveur, visionnaire, qui embarque avec lui tout un tas de gens et leur donne confiance dans un futur qui aurait une autre gueule, le Théo apprenti punk, qui essaye de s'en foutre de tout, le Théo apaisant, qui rassure juste par sa présence, le Théo triste, plein de noir, dans une chambre volée fermée, le Théo mélangeur, avec ses amis de tous bords, ses théories entre l'anarchisme et le communisme, avec son travail à la ferme, le Théo rieur, joueur, lecteur, et tous les Théos que j'oublie, qui me reviendront, tous les Théos que tu ne sauras pas. J'en pleure, j'en ai pleuré, j'en pleurerai. Alors je crois que le temps où je te préfère, c'est au participe. Partant. Tu étais partant. Car tu avais cette énergie incroyable pour déployer les 1000 idées que tu avais dans la tête. Partant pour imaginer qu'on pouvait faire de la politique, de l'entraide et de l'émancipation en même temps. Partant pour être là, pour les autres, à toute heure, partant pour une bière en terrasse et un kebab à tout moment. Tu étais partant. Tu étais en partance. Tu le disais et on ne pouvait, voulait, pas vraiment y croire. Tu vivais avec cette intensité rageuse, ravageuse, ou avec ce désespoir qui emplissait ton sternum. Tu savais plus que d'autres que ton temps n'était pas infini. Il y avait un truc qui te cuisinait les tripes, et pas à la mode de camp. Tu es partant pour toujours. Partant, car la présence ne se remplace pas et qu'il faut bien s'acclimater à ton absence. Partant, parce que je vois bien que tu t'éloignes un peu et que ce que tu deviens me ressemble de plus en plus. Mais ton partant, ton élan, n'est pas du tout partant pour autant. Car ton partant, tu l'as susurré à pas mal d'oreilles. Tu l'as partagé et tu l'as aussi parfois gueulé de manière maladroite. Et quand t'es parti, on n'a pas vraiment eu envie que ton partant parte avec toi. On ne s'est pas vraiment concerté, mais j'ai l'impression que chacune, chacun a eu besoin, envie, de cuisiner ton partant à sa sauce, et a essayé de faire des plats plus à leur goût. Car oui, chacune, chacun à notre manière, faute de t'avoir encore avec nous autour de la table, on n'a pas eu d'autre choix que de faire de ton cadavre un truc exquis. Post-scriptum. Excuse pour le mot cadavre, qui pourrait paraître glauque à certaines ou certains, Mais bon, tu sais, c'était la consigne de faire un cadavre exquis pour Théo.
Pour Théo.
Et tu me connais, j'ai toujours eu besoin de l'humour noir pour m'en sortir. Et puis c'était aussi un clin d'œil au livre que tu m'avais offert, Modeste proposition de Jonathan Swift. Et puis on sait bien que t'aurais pas été le dernier
à te marrer à des blagues un peu dark. Mais de cette version du rire qui, même s'il jaillit de la tripe, reste un peu en suspens derrière le regard, à l'affût, pour vérifier que tout va bien. Pas la version du rire décomplexé, celle-là qui sonnait fort, surtout quand il s'agissait d'emmerder les rasoirs, et paf, une canette pour les canards, rabier 1, les cravatés 0. Ça tombe bien qu'on en vienne aux canards. Je voulais justement te parler de rivière, de la Loire, ses gabarres et ta fierté, de la Seine, et d'une baignade caniculaire, tes combats pour que reste un port, et toute la vie qui va avec, et des berges vivantes, et ouvertes, à tous, et pourquoi pas d'une chute dans le Bosphore qui n'est jamais qu'une grosse rivière salée, et des radeaux que les copains lancent. La mémoire et la mer m'est restée collée sous le crâne l'année dernière. Un bateau, ça dépend comment on l'arrime au port, de justesse. Et puis une autre phrase croisée ailleurs, quelque chose comme « La mer fait aux marins des rêves que les retours à terre assassinent. » Alors des radeaux, c'est bien. Ça s'arrime pas, et ça règle la question. Ça dérive, ça l'âme situe. Merde à la mort et merde à la mer. Et nous, on dérive aussi. Question d'état d'esprit, mais plus fort parce qu'on t'a connu et que malgré la douleur, malgré les regrets qui collent aux pattes, c'est les amitiés qui donnent la force. C'est pas que le courage d'ailleurs qu'elle donne. Une amitié, c'est le cadeau d'un regard en plus sur le monde. Et le tien de regard, il était sacrément aiguisé sur toutes les impostures, celles qui déguisent l'exploitation, mais aussi celles qu'on est capable de se faire à nous-mêmes, celle qui nous dévitalise et que tu refusais par-dessus tout. Alors l'avoir ton regard, ça fait une amulette puissante pour pas se faire avoir, évidemment par les néolibéraux et consorts, mais aussi par soi-même. Alors c'est sûr, la réponse à qu'en penserait Théo est imaginée, mais j'y crois et ça rend plus fort. Les amitiés rendent plus fort. Sûr, ton amitié est une arme qui sert tous les jours.
Je suis urbaniste.
Moi aussi.
Je suis urbaniste gentrifieur.
Je ne suis plus urbaniste.
Je suis urbaniste.
Elle ment.
Mais vraiment, la question de la transmission s'est pas posée dès le début parce que moi, je sais que le premier débat, j'ai pas assisté au début. Je suis rentré dans une salle où il y avait 6 ou 7 tables différentes. On aurait dû une secte, vraiment, avec une ambiance super, super chelou de gens qui parlaient. On avait l'impression qu'ils étaient heureux de parler. Et rien que ça, ça faisait quand même déjà de l'effet. Et on se disait que le côté bien, du coup, là, de l'éphémère, c'est que le moment de partage suffisait un peu à lui-même. Après, en renouvelant les expériences de discussion, au fur et à mesure, on s'est posé la question de la transmission. De la première, on avait fait des vidéos. On avait eu la chance d'avoir un collectif de vidéastes qui nous avait gracieusement aidés. Et après, du coup, on avait fait des comptes rendus par table qu'on faisait nous-mêmes. Ensuite, on s'est posé la question de faire maintenant, on met des feuilles à 4 avec des stabilos et chacun peut prendre le stabilo et écrire un peu ce qu'il veut. Et le but, à la fin, tout bête, mais c'est de mettre sur des pinces à linge et un fil, en gros, un petit rendu qu'on met ensuite, nous, sur Internet. Et pourquoi pas faire, on se pose la question, là, de faire des petits albums pour chaque discussion. Mais c'est vraiment, vraiment venu après nous. La transmission, c'est une question annexe encore pour l'instant. Pour rebondir là-dessus, un petit exemple, je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouve l'exemple pas mal. Il y a un collectif bordelais, je crois, qui s'appelle Les Bruits du Frigo, qui avait monté, je ne sais plus exactement où, mais dans un quartier, un petit café, un lieu de rencontre, où du coup, ils étaient déclencheurs. C'est eux qui géraient un petit peu. Et à la fin, ils sont, selon ce qu'on m'a dit, plus ou moins fait virer par les gens qui vivaient dans ce quartier, qui ont dit, bah, maintenant, on peut le gérer nous-mêmes et on n'a plus besoin de vous. Donc, je sais pas du tout si c'est vrai, si un jour ils écoutent ça, ça se trouve, ils seront énervés, mais j'ai trouvé juste l'exemple au niveau du but, pas mal, si on peut servir juste de déclencheur à ce moment-là.
Demain, y a école, va donc te coucher.
faut que tu sois en forme pour bien te faire chier.
J'aime pas les cales.
C'est la rentrée.
Ton suicide rend plus intense la vie de ceux qui t'ont survécu. Si l'ennui les menace, ou si l'absurdité de leur vie jaillit au détour d'un miroir cruel, qu'ils se souviennent de toi, et la douleur d'exister leur semble préférable à l'inquiétude de ne plus être. Ce que tu ne vois plus, ils le regardent. Ce que tu n'entends plus, ils l'écoutent. Et ce que tu ne chantes plus, ils l'entonnent. La joie des choses simples leur apparaît à la lumière de ton triste souvenir. Tu es cette lumière noire mais intense qui, depuis ta nuit, éclaire à nouveau le jour qu'il ne voyait plus.
Je sens brûler en moi un désir sauvage d'éprouver des sentiments intenses, des sensations. Une rage contre cette existence en demi-teinte, plate, uniforme et stérile. Une envie furieuse de détruire quelque chose, un grand magasin par exemple, une cathédrale ou moi-même. Une envie de commettre des actes absurdes et téméraires, d'arracher leurs perruques à quelques idoles vénérées, de munir deux ou trois écoliers rebelles du billet tellement désiré qui leur permettrait de partir pour Hambourg, de séduire une petite jeune fille ou de tordre le cou à quelques représentants de l'ordre bourgeois. Car rien ne m'inspire un sentiment plus vif de haine, d'horreur et d'exécration que ce contentement, cette bonne santé, ce bien-être. Cet optimisme irréprochable du bourgeois, cette volonté de faire prospérer généreusement le médiocre, le normal, le passable.
Les amitiés rendent plus fort, sûr. Ton amitié est une arme qui sert tous les jours.
Comment ça ? Une arme qui sert tous les jours ? Plutôt une larme. Qui vient quelquefois quand le jour laisse place à la nuit et qu'on pense à ses amis partis. Une couleur parme, triste et morose, et moche, jour comme nuit. Une rame sur le radeau qu'on a tenté de faire, seul, sans les copains. J'ai grave ramé. Une flamme de ouf qui vibre quand on se sent réuni grâce à toi ce week-end. Une gamme de vie, du noir au gris, puis au jaune bien gai. Des jarres de vin, de bière et de whisky pour tenir le jour.
Voilà pour moi quand je pense, à toi, Théo,
l'arme, c'est la larme qui attise la flamme et le feu qui nous tient l'arme à gauche. À gauche ?
À gauche.
Mais à gauche de quoi ?
Mais à gauche de quoi ? De qui ? Dérivé. Je n'ai compris pratiquement le sens de cette geste quand accompagné. Toujours impromptu, toujours si joyeuse, si rebarrative. N'ayant partagé ton temps qu'avec intermittence, dans des bois ou des bars, je ne t'ai connu qu'énergique, héros, prêt à tout chambarder. Les façons de boire, celles de rire et de penser, celles pour attaquer le monde. Tout ceci n'ayant l'air avec toi de ne faire qu'un. Et fais ton halte plus vivifiante que sous les arbres ou sur un zinc. Ou mieux conspirer. Qui, plus que toi, mit plus de vie dans certaines sombres nuits. Sais-tu même que tu as résolu sans y penser le Kéfer, pierre philosophale du siècle qui s'étend ? Lourdé d'un halo de mystère, une sentence d'outre-méditerranée dit « l'ifetmet ». Elle va et vient régulièrement dans mon esprit, trotte, fait saut et gambade, se moquant de moi. Je crois que je ne l'aime pas, ou peut-être ne la comprends-je pas. Car d'où bâtir une joie rageuse, armée et ouverte, qui nous anime, si ce n'est à partir de toi et de nos expériences partagées. Je lis et relis ces pages inoubliables qu'on incendia un soir de pluie, des lendemains en tête. Sortez de vous-même, émouvez-vous toujours, et luttez toujours, et peut-être avant tout contre nous-mêmes. Et ce mot de la fin, qui semble comme plié en forme de bouteille à la mer. Quand j'ai l'esprit qui s'égare, de façon plus ou moins contrôlée, il arrive qu'il t'aperçoive. Je t'imagine alors malicieusement allongé au chevet du monde, ou toujours au Spoutnik, m'étonnerait pas. Tantôt rêveur, tantôt rageur, à souffler sur les braises, sur nos braises. Même loin de nous, tout est là, bien sincèrement prêt à mettre le feu au monde et à nos vies.
vis-à-vis de tous les faits de la vie qui, auparavant, ont causé mon désespoir. Je peux reconnaître que la mer et le vent ne manqueront pas de me survivre et que l'éternité se soucie peu de moi. Mais qui me demande de me soucier de l'éternité? Ma vie n'est courte que si je la place sur le bio du temps. Les possibilités de ma vie ne sont limitées que si je compte le nombre de mots ou le nombre de livres auxquels j'aurai le temps de donner le jour avant de mourir. Mais qui me demande de compter? Le temps n'est pas l'étalon qui convient à la vie. Au fond, le temps est un instrument de mesure sans valeur, car il n'atteint que les ouvrages avancés de ma vie. Mais tout ce qui m'arrive d'important et tout ce qui donne à ma vie son merveilleux contenu, la rencontre avec un être aimé, une caresse.
Des guerres se déroulent sous nos yeux fermés. D'autres se préparent, civiles ou mondiales.
Voilà où on est dès notre époque. Voilà où nous en sommes.
Le système capitaliste est un mode de destruction avant d'être un système de production. Il brise progressivement toute forme de lien.
Qu'on soit écologiste,
athée,
laïque,
communiste,
anarchiste,
citoyen,
social-démocrate,
humaniste,
le combat est le même.
Le seul acteur capable de ne pas détruire le monde, c'est l'humanité, dans sa diversité intrinsèque, c'est-à-dire nous, ensemble.
Toutes et tous, rassemblés et non séparés. Cloîtrés, cloisonnés, fermés, enfermés, écartés, marginalisés, écartez-les.
Dépasser la pédanterie du texte qui suit. Faire confiance, se faire confiance, nous faire confiance.
Ne pas être d'accord au contraire, mais se confronter à l'autre. Réfléchir, puis discuter, partager, se construire ensemble. Voilà la clé de voûte de nos luttes et de nos vies.
Parlons-nous, regardons-nous au fond de nous-mêmes. Regardons notre histoire.
Soyons puissants plutôt qu'apeurés.
Humbles comme la terre qui ne donne que ce qu'elle peut donner pour le moment. Laissons-nous le temps de grandir ensemble, malgré toutes les atrocités et les urgences qui nous acculent. La peur est un frein.
Les amitiés donnent de la force. Quitte à se battre, autant chercher la victoire.
Croire en ce que l'on fait,
ça change tout!
L'enfer des vivants n'est pas chose à venir. S'il y en a un, c'est celui qui est déjà là, que nous formons d'être ensemble.
Mais non, c'est pas ça, c'est pas possible.
Que nous faisons d'être ensemble?
L'enfer des vivants n'est pas chose à venir. Ensemble. Non, peut-être que c'est vraiment vomir.
Non, venir.
Vas-y, pardon.
Je refais ?
Ouais.
L'enfer des vivants n'est pas chose à venir. S'il y en a un, c'est celui qui est déjà là. Que nous formons d'être ensemble. Il y a deux façons de ne pas en souffrir.
La première, réussit énormément à la plupart. Accepter l'enfer, en devenant une part, au point de ne plus le voir.
La seconde est risquée, et elle demande une attention, un apprentissage, continue.
Chercher et savoir reconnaître
qui est quoi. Au sein de l'enfer n'est pas l'enfer, et le faire durer et lui faire place.
Italo Calvino.
Bonne lecture, pleine d'amitié.
Faites tourner.
Théo.
La vie s'écoule, la vie s'enfuit. Les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris. Nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris. Nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie. Le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus. La jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus. La jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Brûler repère de curé, ni de marchand, de policier. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Les fusils sur nous dirigés, contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats.
Le feu. La prochaine fois, encore une fois que j'y pense. Ce n'est pas un feu de joie, mais bien un feu d'artifice, ce qui convient le mieux à fêter un prince fou, dont tu avais l'air cette fois où tu partais courir, avec un chien à ton côté et des baskets aux pieds. Tu aurais su te moquer de l'attente, des plus jamais, pour nous attendre et puis courir. C'était la stratégie du bon son, de l'omelette pas très cuite dans la main gauche et du livre d'occasion dans la poche, le poète sans papier. C'était un tour à l'aveugle sur les barricades, parce que quand même tu avais hâte de voir l'étincelle devenir feu, pour ensuite échanger un regard qui disait « toi aussi ». Parfois j'imagine ça, plein milieu de l'après-midi, et toi qui ouvres la porte de la maison. Tout d'un coup, il y a le dedans et le dehors d'un monde, et toi, debout en plein milieu, solide comme l'armoire du salon. En plein milieu comme le livre, laissé par terre devant la porte. Ce livre qu'il fallait que tu lises, parce que sinon, pas de droit de parole, allez, les classiques. Désolée, ce sont beaucoup plus les mots que tu as essayé de m'apprendre que ce que j'ai appris. Mais comme mauvaise élève, j'ai gardé plein de morceaux du tableau. Tu te souviens l'histoire du jardin secret? Une porte. Et voilà que devant tes yeux se déroule quelque chose de magique et merveilleux, plutôt chaotique, assez mystérieux, assez punk et un peu comique. Tout a l'air familier, mais en même temps éclatant. Parfois il souffle un vent.
Parfois, il souffle un vent
bien haute et qui garde la flamme bien haute pour une révolution.
Qui raconte toujours la route pour une révolution.
Et ce vent, on l'attend.
Et ce vent, on l'attend.
Et ce vent, on espère qu'il nous porte.
Et ce vent, on espère qu'il nous porte encore. Qu'il nous berce ensemble. Où es-tu? Le vent souffle et la flamme parfois désarme. Ce sont les larmes qui nous crament. Dans ce vent, je comprends qu'il est des forces qui nous dépassent, des combats enfouis dans les vagues, d'invisibles révolutions. Le vent souffle et les branches tanguent. Je veux croire en la grandeur des espaces. Je veux croire qu'une infinie place t'attend sous l'arbre. Les racines respirent autrement. Elles ont englouti ton corps. Mais ici se raconte ton souvenir. que ces mots exquis te portent.
Je suis venue te dire au revoir.
Je suis venue te dire au revoir.
Je préfère te murmurer bon vent.
Je préfère te murmurer bon vent.
Ça commence comme un film, fondu au noir, Val-de-Marne, Istanbul, 2038. Très tôt le matin. Le vent qui souffle est différent de celui de la veille. C'est un vent révolutionnaire. Ce n'est pas évident de se tenir debout avec un vent pareil. Souvent, on s'énerve, on trébuche, on comprend rien. Mais si on le laisse souffler sur nous, ce vent, il accompagne nos gestes. On marche mieux et plus vite. D'un coup, on se sent presque bourré. On titube.
On a eu le plaisir d'entendre les 12 voix de Zoé, Teddy, Amélie, Thierry, Léa, Julien, Valentina, Jérémy, Marion, Marouane, Clément, Adélé, Gaël, mais également Agathe, Didi, la guitare de Gaëtan, Guillaume, Thibaut, Florian et évidemment Théo. Théo dans la voiture, Théo à la radio, Théo dans un colloque à Lyon, Théo et Guillaume qui chantent pour la rentrée. On n'a pas entendu résonner le joli timbre des voix de Julie, Leïla, Maud et Marine, mais on a évidemment écouté leurs textes avec la plus grande attention. Côté lecture, Zoé nous a offert quelques extraits de Suicide d'Edouard Levé. Pour ma part, j'ai choisi Le Loup des Steppes de Hermann Hesse. Enfin, Florian nous a gratifié d'une lecture orageuse d'un texte de Raoul Vanheghem, Nous qui désirons sans fin. On écoute actuellement Prickly Pear de Portico Quartet. En introduction, on a écouté Smell the Roses de Zenzile. Forcément, Renaud nous a également accompagnés avec la chanson du Loubar. Vous avez certainement dodeliné au rythme d'Il Galeone de Paola Nicolazzi. On a également droit à l'inévitable La vie s'écoule, interprété par Jacques Marché. Enfin, les Têtes Raides nous ont accompagnés tout au long de ce voyage sonore avec la mise en musique d'un texte de Stig Dagerman. Vous aurez reconnu, notre besoin de consolation est impossible à rassasier.
Nous retrouvons parfois Théo, enraciné dans un cerisier, dans un jardin suspendu à Ivry, dans un hêtre sur les bords de Loire. Théo se lit entre les pages du livre Encore vivant de Pierre Souchon. Nous le retrouvons aussi parfois, prenant le frais, dans le gouffre au-dessus du refuge de folie, bouillonnant dans le torrent de montagne de Samoëns, flottant sur un radeau sur la Loire. Et on avait aussi envie de pouvoir le retrouver au creux de nos oreilles, avec ce montage sonore. Une pensée particulière à Valou, Éloi, Annie et Laurent.